Je vais déconnaître un peu c'est quoi le cercle des voisins, si vous pouvez vous présenter.
Le cercle des voisins, c'est une association maintenant. Avant, on était un collectif. Alors le centre de rétention de Cornebarieux, c'est construit en 2006, de toute façon tout à fait illégale, puisqu'il n'a pas eu le permis de construire pour se faire construire. Mais le maire de Cornebarieux n'a pas été interrogé. Et nous, on était un groupe de citoyens qui on s'est un peu révolté contre cette construction. Et en fait, on s'est créé en 2008, quand ça a commencé à bien fonctionner. Et en 2013, on est passé en association pour pouvoir interroger la préfecture, pour pouvoir être la voix des sans-voix, ouais. En gros. Ouais. Voilà.
Donc, okay. Dans le centre de rétention, il y a qui vivent dans le centre de rétention, qui est amené dans le centre de rétention.
Alors les gens qui sont amenés au centre de rétention, ils sont arrêtés dans la rue, ils sont arrêtés
dans les gares.
Dans les gares
surtout.
À la frontière.
Ouais.
Et aussi dans les préfectures, dans les administrations. Mmh. C'est terrible, ouais. Dans les administrations. Oh, ça rappelle mauvais souvenir, ça. Ouais. On arrête encore.
Ouais. Sur convocation, déloyale, souvent.
Ouais, de plus en plus d'ailleurs, sur arrestation déloyale, ça a été condamné.
Sur dénonciation.
Ça rappelle vraiment de très mauvais souvenirs. De plus en plus, on entend dénonciation, arrestation déloyale. On amène effectivement par exemple, il y en a eu un dernièrement, c'est un petit jeune qui a été sorti, d'un Naomi, mais en dehors de la Haute-Garonne, donc ça s'appelait pas Naomi, mais c'est un directeur d'un centre qui accueillait des adolescents qui a amené carrément un jeune homme au commissariat de police.
Ouais.
Pour dire, monsieur, il n'a pas de papier.
Ah bon, c'était pas une visite touristique.
Non.
Tu peux dire la ville. Hein.
Ouais, c'était à Pau. C'était dans le Gers, ouais, c'était à Pau.
Pyrénées, non, c'est pas l'Atlantique.
C'est le Pyrénées. Ouais, mais je suis pas local, moi. Ça fait pas longtemps que je suis à Toulouse.
Mais c'est pas grave.
Je franc contre pas.
Appellera Bayrou.
Et qu'est-ce qui se passe les gens qui sont dedans?
Qu'est-ce qu'ils pensent?
Qu'est-ce qu'ils passent?
Ah, qu'est-ce qu'ils font?
Qu'est-ce qu'ils passent dedans?
Qu'est-ce qui se passe dedans?
Oui, on finit les gens dans le centre.
Alors, on va reprendre depuis le début. Donc, oui. Ces personnes, donc une personne qui est arrêtée, peu importe où, et qui se trouve en situation, on va appeler, irrégulière sur notre territoire. Alors, pour X raisons, pas de titre de séjour, pas les bons titres de séjour, il va être placé en garde à vue, déjà, c'est la première chose. Donc, dans un commissariat de police, dans une gendarmerie. Et là, ces gendarmes, ces policiers vont commencer à interroger les préfectures du coin et puis leur dire, mais dans quelle situation est monsieur? Est-ce que, il n'est pas en situation régulière, il faut qu'on le renvoie. Donc, X pays, peu importe. Et donc là, les préfectures vont prendre ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. À partir du moment où il y a une OQTF, on va dire effectivement, pour lui faire quitter le territoire, on a deux solutions. C'est soit on le met tout de suite dans un avion et il part, soit on n'a pas les papiers nécessaires, donc on va le retenir le temps de préparer son départ. Voilà.
Et d'où donc, les centres de rétention administrative.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Le CRA.
On retient.
On retient. On ne détient pas. On retient.
On retient.
Hein, voilà. Et donc à partir de là, on va le donc il va passer. Il y a plusieurs étapes. Il va passer devant un tribunal qui va valider effectivement si cette rétention est légale ou pas. C'est ce qu'on appelle le juge de la détention et de la liberté, le JLD. Hein. Et alors lui, il va dire effectivement, oui, non, c'est pas bien, alors vous êtes libre. Puis alors, non, c'est bien, allez, vous êtes retenu pendant. Alors, une durée maximum de, la première fois, de 28 jours, c'est-à-dire 2 jours de garde à vue plus 28 jours, ça fait 30 jours. Dans les 30 jours, normalement, cette personne doit être renvoyée, donc on doit exécuter ce qu'on appelle l'OQTF. Et si on l'exécute pas, il va repasser devant ce JLD, et là pour 15 jours. Et donc, et au bout des 45 jours, si on n'a toujours pas exécuté cette OQTF, si on ne l'a pas renvoyé dans son pays, il est libre.
Oui.
Ah, voilà. Mais il faut quand même passer 45 jours en rétention.
C'est super.
C'est génial. Hein, c'est
les vacances gratuites.
C'est ça. Et dire qu'il y a des gens qui pensent effectivement qu'il faudrait les mettre 90 jours dans un centre de rétention.
D'accord, donc faussement, c'est... un dispositif administratif de plus pour ne pas trouver de solution, quoi.
Ouais. Ouais.
Bah, disons qu'il faut avoir la réponse du pays où on veut le renvoyer pour pouvoir exécuter cette expulsion. Enfin, nous, on appelle ça une expulsion. Ils appellent ça...
Un éloignement.
Un éloignement, voilà. Parce qu'il y a les mots qui comptent aussi. Ouais.
Un éloignement.
Les mots, c'est important.
Ouais. Ouais. Et s'ils ne l'ont pas, il reste au centre de rétention.
Il y a combien de personnes là, dans ce centre à Cornemaria?
Il est prévu pour 126 places, je crois.
126 places.
Bon, il a quasiment jamais été plein, hein, parce que c'est invivable.
Ouais.
Ah,
ouais.
D'accord.
Ouais. À 40, d'après ce qu'ils nous disent, à 40, c'est invivable. 40, c'est invivable. Donc,
Alors, avec votre... Ah, tu veux...
Non, mais je voulais demander où sont les pays qu'ils ont ramenés. Ils ont ramené les gens, ils sont envoyés au pays d'origine ou...
Non, c'est... Alors oui, effectivement, c'est la particularité de la France, c'est que c'est rare, effectivement, qu'ils renvoient dans les pays d'origine. C'est souvent, effectivement... Alors, le principe d'entrée sur le territoire européen, c'est quand même Schengen, c'est le grand mot, le mot à la mode. Ouais. Dans l'espace Schengen, c'est souvent, donc on rentre, on a entendu SOS Méditerranée, donc on rentre souvent soit par l'Italie, soit par Malte, ouais. soit par... ou par l'Espagne. Donc c'est les pays où on renvoie le plus, hein. Voilà, hein, c'est voilà.
Mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Alain, parce qu'on renvoie aussi dans les pays d'origine.
Oui, on renvoie, bien sûr.
Et il y a beaucoup de, on a beaucoup de cas de personnes qui, par exemple, arrivent d'Espagne pour venir passer un week-end en France ou venir voir des amis, qui se font arrêter à la frontière, mais ils veulent pas rester en France, ils veulent juste passer un week-end et donc ils sont arrêtés à la frontière. Ils ont pas le droit de venir. Parce qu'on est un pays très accueillant, n'est-ce pas? Donc, surtout pour les femmes, elles sont amenées au centre de rétention de Cornebarieux, parce que les hommes peuvent être enfermés au centre de rétention de Perpignan, qui n'est pas habité à recevoir des femmes ou des familles. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de femmes qui sont arrêtées à la frontière. Et mais ces femmes qui viennent, par exemple, d'Espagne, qui arrivent en France... Elles ne sont pas toutes espagnoles. Elles peuvent être péruviennes, je ne sais pas, mexicaines. Eh bien non, on ne les renvoie pas en Espagne, où elles vivent, où elles ont un travail, où elles ont une famille. On les renvoie au Pérou ou en Mexique. Donc tu vois...
Oui, tu as raison, effectivement, par rapport à ça, oui. Parce que oui...
C'est fort,
en fait, oui, il y a vraiment un endroit où on arrête beaucoup, c'est à Perpignan. Hein, les Pyrénées-Orientales, on arrête énormément. Et c'est l'endroit où passent ce qu'on appelle les Eurolines, les Eurolignes, les bus qui... Oui. Donc on prend souvent des bus d'Italie, puisque donc l'Italie est quand même un lieu où il y a énormément de migrants, et on va en Espagne, parce que c'est quand même aussi plus facile d'obtenir des papiers. Donc et c'est souvent au cours du voyage où les policiers arrêtent et puis disent vous êtes sur notre territoire, mais de façon totalement illégale. Alors que non, mais je fais juste traverser, moi, monsieur, je vais pas rester dans votre pays, je veux pas rester en France. Mais non, on arrête. Ouais. Pour les stats, je pense, les statistiques. Il faut arrêter. Et c'est vrai que
les chiffres traversent l'esprit.
Ouais. On a des anecdotes. Mais... Bon, là, on en a plein comme ça. Là, dernièrement, une petite péruvienne qui a été arrêtée à la frontière à Perpignan avec son billet d'avion pour Lima. Elle avait son billet d'avion, elle avait son billet Madrid-Lima, et tout. Elle avait même son billet de train Barcelone-Madrid, Madrid et son avion. On l'a arrêté à Perpignan, on l'a amené à Cornebarieux, et on lui a fait un joli billet d'avion Cornebarieux-Blagnac-Paris et Paris-Lima.
On a fait changer de trajet.
Oui, c'est ça.
Alors, on peut en rire, bien sûr, mais est-ce que c'est une gaffe, une volonté politique de noyer le poisson, si je puis dire? C'est une manière de noyer le poisson, de dire oui, finalement, tout le monde est traité à la même enseigne, et puis on ne vérifie pas que ce soit des personnes réellement, en situation irrégulière, puisque là, vous n'avez pas l'air de dire que c'était des personnes qui étaient là pour...
Je pense que pour l'administration, le centre de rétention, c'est plus un endroit où tu... On va dire stocker les gens pour organiser son expulsion, c'est un endroit où tu punis.
Ouais.
Et tu punis... jusqu'à 45 jours maintenant. Mais il y a des gens qui passent 45 jours. Alain pourrait te raconter l'histoire du mec qui a fait 18 centres de rétention.
Ouais.
18.
18 centres.
En France.
Non, 18 centres. Non, dans l'espace Schengen. Ah oui. Il a sa 18e, là, il est à Cornebarieux encore actuellement. Il en est à sa 18e rétention.
Et ça fait 3 fois qu'il vient. Jours à chaque fois.
Et ça fait 13 ans qu'il est dans l'espace Schengen et il a fait 18 centres de rétention. Il connaît ceux d'Allemagne, il connaît ceux de Belgique, il connaît ceux de France, il les connaît tous ceux de France. Mmh. Et au bout de 18 fois, on s'est toujours pas posé la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi on est obligé, effectivement, voilà. Alors que simplement, on dirait, c'est un apatride, il n'a plus de pays, on a essayé de le refouler. Il a été envoyé au Maroc et le Maroc l'a refoulé parce qu'il n'appartient plus à la communauté marocaine. Donc il est apatride. Et il suffirait juste qu'une administration, qu'elle soit française, belge ou allemande, dire bah voilà quoi, on arrête quoi. Hein, on va vous faire des papiers, vous êtes apatride et vous restez dans l'espace.
C'est pas trop la tendance, manifestement.
Mais c'est pas la tendance. La tendance. Moi, je pense qu'il en est à la 18e et je pense qu'il en fera une 19e et une 20e.
Ce serait intéressant d'avoir son témoignage. Mais justement, vous, vos interventions par rapport au centre de Cornebarieux, est-ce que vous pouvez y accéder dedans?
Oui.
Comment ça se passe?
Alors, en tant qu'assos, on ne peut pas y accéder. Ouais. C'est l'association qui travaille au sein du centre de rétention, c'est la CIMAD, l'équipe de la CIMAD du centre de rétention. Ouais. Il y a trois personnes qui travaillent là actuellement, qui donc aident les migrants à juridiquement quoi en fait. Et nous, on peut, comme toi, comme n'importe qui, aller rendre visite à quelqu'un qui est enfermé au centre de rétention. Il suffit de connaître son nom. Et puis tu vas lui rendre visite, t'as une fouille bien faite, voilà, avant de rentrer, tu laisses tout, et puis même ton téléphone portable, parce que les photos sont interdites, donc les personnes retenues n'ont pas le droit de garder leur appareil photo, leur téléphone s'il fait des photos. Donc voilà. Donc on peut aller lui rendre visite, la visite dure environ une demi-heure. Si le flic est sympa, ça peut durer un peu plus longtemps s'il n'y a pas de monde à attente. S'il n'est pas sympa, il coupe court. Et puis, en fait, on va discuter avec lui. On essaye de lui apporter un peu une aide en parole ou on apporte quelques petits trucs, quelques petites douceurs. Mais ce n'est pas ça qui va changer la donne. Après, ce qu'on fait, nous, quand les personnes sont libérées, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont libérées par le juge des libertés, on va les chercher au centre de rétention, parce que ce centre aussi, il est quand même isolé. Il n'y a, pas de moyens de transport. Il y a une route très passante qui passe devant. S'il sort en hiver, où il fait nuit assez tôt, il y a des femmes qui sortent avec des enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont enfermés quand même dans ce centre. Hein. Et qui sortent, elles peuvent se faire avoir un accident. Donc on va les chercher, on les abrite pour la nuit si besoin, et on leur paye le voyage de retour, parce que l'administration peut aller les arrêter à Clermont-Ferrand, à Limoges, je ne sais pas où. Et elle les amène, bien sûr, en voiture de police jusqu'au centre de rétention. Mais après, c'est on ouvre les grilles et démerdez-vous, quoi. Voilà. Donc le cercle des voisins.
Elle n'assure absolument pas le service après-vente. Hein. Le cercle des voisins est là et on est là pour le faire. Mais eux, non.
Mais à titre individuel, donc vous avez découvert cette chose administrative horrible. Quand, à titre individuel, vous êtes engagé quand dans cette histoire?
Michel.
Quand, je sais pas, en discutant avec, justement, on s'est appelé Cercle des voisins, parce qu'en discutant avec les voisins, on a dit, vous avez vu ce qui se construit là, vous avez vu ce qui s'y passe. Et, après, moi, je vais faire le lien avec le Cercle de silence qui se passe à Toulouse, qui se réunit tous les mois. Chacun y participe ou pas. C'est les franciscains qui font ça. Ils ont choisi le silence pour protester. Et donc, ils mettent des panneaux, ils expliquent ce qu'est un centre de rétention. C'est une manière de protester qui est tout aussi valable qu'une autre. Donc régulièrement, tous les derniers mardis du mois, ils se réunissent là, pendant une heure, ils font un cercle de silence. Et nous, on a dit qu'on voulait faire un cercle aussi, c'est pour ça que ça s'appelle Cercle des voisins, mais pas de silence. Et justement, on veut témoigner et on distribue des tracts, on essaye d'informer, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas qu'il y a un centre de rétention. D'abord, on passe devant, c'est écrit CRA. Tu sais pas ce que c'est, CRA.
Moi, je sais pas. Je savais pas avant.
À part qu'il y a des grilles, des barbelés en haut, avec plein de caméras, ça on voit. On
comité
voit
que c'est régional des autonomistes.
Qui n'est pas très ouvert, mais voilà, qui n'est pas très accueillant, mais voilà.
Donc oui, donc il est un peu caché, il est un peu masqué.
Voilà, il y a cette volonté de cacher ce qu'il y a dedans, de rendre invisible. Déjà, ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas se défendre. Donc, en fait, peut-être le cercle des voisins, ça sert à ça aussi.
Ah oui, avant tout.
Oui, ça c'est général. J'ai trouvé que ça c'est assez général un peu partout, que l'objectif principal c'est de le rendre invisible. Non, avant on avait le témoignage des gars qui ne pouvaient pas dormir devant les 115, mais c'est la même, tout est invalide ici.
Oui,
c'est pas important
mêmes,
où, mais tout est devant ici.
Bien sûr qu'on ne veut pas montrer.
Je voulais revenir sur un truc aussi, parce que je vous ai dit qu'il y avait des femmes qui étaient enfermées, il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des gens malades aussi qui sont enfermés là. Et on a vraiment un gros problème avec il y a un médecin au centre, il y a des infirmières au centre, et il y a des gens malades psychologiquement qui sont enfermés. Et ce centre, il est quand même équipé d'une chambre d'isolement. Avec tout le matériel qui va avec, la camisole de force, enfin tout ce qui va bien. Et,
la contention.
Voilà, la contention. Et l'enfermement...
Renforce
toutes ces...
problèmes de troubles psychiques.
Voilà.
Énormément.
Et donc là-dessus, on a écrit au médecin du centre de rétention, on a écrit au médecin de l'OFI, et on a essayé d'informer, on a essayé aux défenseurs des droits, à la contrôleur des lieux de privation de liberté. On écrit beaucoup aussi au Cercle des voisins. Par contre, on n'a pas beaucoup de réponses.
D'accord.
La contrôleur des lieux de privation de liberté prend acte de nos courriers, mais les autres, rien.
Ouais.
Donc il y a un autre combat à mener.
Oui,
ça c'est important.
Fatima, une question sur la prison administrative.
Donc, à la première émission de Radio Libre Circulation, notre Michel Garçon, nous avait dit que vous aviez prévu de faire notamment une rencontre avec les habitants de Cornebarieux pour les avertir de ce qui se passait dans leur commune, de ce centre de rétention. Est-ce que ça s'est fait ou est-ce que ça
non,
se fait ?
Non, ça se fait le 6 octobre et vous êtes invité à 18h30 au foyer de l'Aussonnel à Cornebarieux.
Cornebarieux, métro.
Il n'y a pas de métro à Cornebarieux. Alors justement, il y a un problème des transports aussi, bien sûr. Quand on sort du centre de rétention, il faut se débrouiller à pied ou... Voilà.
Ah, stop. Ouais. Faut appeler la police sinon. Non, pour nous y amener.
Non mais attends, il y a des policiers sympas qui arrivent
il veut bien avoir des policiers citoyens.
Ça arrive de temps en temps quand même.
Alléluia.
On va devoir enchaîner les dernières interventions justement. Et juste, je tiens à vous dire un article qui est daté de hier en fait, 28 septembre. Donc c'est dans Mediapart et c'est signé de Karine Fouteau. Juste un extrait. Immigration, le gouvernement opte pour le tout répressif. Doublement de la durée de rétention, allongement de la retenue pour vérification d'identité, expulsion facilitée des migrants dublinés. Gérard Collomb fait plus fort que ses prédécesseurs Place Beauvau. L'avant-projet de loi sur l'immigration et l'asile révélé par l'AFP durcit dangereusement le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Ce texte, annoncé par le président de la République comme devant être examiné devant le Parlement au premier semestre 2018, durcit considérablement les règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France dans le sillage du projet de loi antiterroriste en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Voilà.
Et oui, tout augmente, la connerie administrative. C'est ça.
90 jours, ça va être horrible. Ça va être horrible, c'est pas possible, on peut pas.
Oui, c'est ce que vous avez l'air de dire.
Ouais. Parce que là, on est déjà en détention, c'est pas de la rétention. Est vraiment, c'est de la détention. Donc 90 jours, c'est vraiment, on les met en prison, on va les punir. Être demandeur d'asile, on sera puni.
Il y a des places où c'est encore pire. Hein. Moi, je me rappelle en Grèce, je pense jusqu'à 6 mois. Six mois dans un centre de rétention.
C'est
beaucoup plus, quelquefois.
C'est ce que dit Macron. Hein.
Ouais.
C'est ce qu'on est en dessous.
Oui, c'est ça. On se justifie parce qu'il y a d'autres pays qui font pire que nous, donc on peut se permettre de faire pire.
Non,
c'est quand même terrible.
Mais c'était pour dire la comparaison. Non, tu avais dit 45 jours, on fait 45 jours. Par exemple, à l'Italie, c'est pas.
Et donc,
pas beaucoup, ça veut dire que c'est pas mieux, mais en quantité de temps, c'est pas.
Juste rappeler que le crime, effectivement, pour lequel ces personnes sont enfermées, donc c'est simplement un défaut de papier.
Oui,
pas
ça.
Finalement, parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, c'est tout.
Ce ne sont pas, ni criminels, ni délinquants.
C'est pour ça qu'on les retient,
on
les détient.
Oui. Et par exemple, il y a un combat par exemple, du cercle des voisins et qui commence à aboutir, ouais. C'est par exemple effectivement l'arrêt du menottage au tribunal. Hein. Donc on a réussi à faire comprendre effectivement que ce n'était pas ni des criminels ni des délinquants, donc ils ne devaient pas être menottés. Donc ça commence par. Il y a les patrouilles qui le font quand même, hein, de plus en plus. On le voit de moins en moins.
Oui, après, voilà, c'est à l'usage, ça. Effectivement.
Après, il y en a encore, malheureusement, mais moi qui y vais tous les jours, je vois effectivement la différence.
Il y a un début de quelque chose, en tout cas, ça prouve que vous influencez sur le réel, quoi. En tout cas. Ouais. On ne peut que vous féliciter là-dessus, on n'est pas loin de la fin de l'émission.
On redonne le contact du Cercle des Voisins, il y a un site internet. Ouais.
C'est cercledesvoisins.org notre contact, c'est contact@cercledesvoisins.org.
Et rendez-vous donc le 6 octobre, tu dis ?
Le 6 octobre, et on peut aussi se revoir le 13 octobre à la salle de la laïcité et de la diversité.
À Toulouse.
Pour parler, oui. Autour du film Un paese de Calabria, pour parler justement d'accueil, d'accord. Ce qu'on ne fait pas.
Oui, ce qu'on a peut-être fait, il fut un temps. Ou les jeunes, etc. Fatima, il est 21h01, il nous reste une dernière intervention. On peut nous remercier tout le monde, dire au revoir.
À la fin de l'intervention.
Ça, c'est toi qui dis.
Merci Michel, merci Alain du Cercle des Voisins. Merci beaucoup.
Merci.